Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Fidèle au poste. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, nous parlerons bande dessinée, nous partirons à la rencontre du grand acteur Kirk Douglas et nous évoquerons un film actuellement sur les écrans, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Mais pour l'heure, les plus anciens reconnaîtront le thème de l'émission mythique Sesame Street. L'incroyable sauvetage des enfants juifs de Vénissieux en août 1944 dans la région lyonnaise, c'est l'objet de cet impressionnant roman graphique « Vous n'aurez pas les enfants » d'Arnaud Le Guéflec et Olivier Balèze aux éditions Glénat. Dans une France déchirée, le gouvernement de Vichy s'apprête à organiser une nouvelle rafle après le Veldiv en livrant à l'occupant nazi les juifs étrangers de la zone libre. Parmi eux figuraient des centaines d'enfants. Quand l'abbé Glasberg apprend ce qui se trame, il a peu de temps devant lui pour agir. L'homme d'église a épluché méthodiquement les lois jusqu'à trouver une faille. Sous couvert d'aider à trier les internés qui affluent, l'abbé entame un véritable combat administratif. Grâce à une chaîne de solidarité d'une ampleur inédite, formée par des citoyens, des résistants et des membres de l'œuvre chrétienne, il va réussir à exfiltrer un grand nombre de personnes du camp de Vénissieux en fournissant notamment de faux documents. Dans la nuit du 28 au 29 août 1942, des mères et des pères vont faire un dernier geste d'amour pour éviter à leur enfant la solution finale. C'est le récit du plus grand sauvetage collectif d'enfants organisé dans un camp durant la Shoah en France. Valérie Porteret en a fait un livre dense, fruit de son enquête incroyable. Arnaud Le Guéflec et Olivier Balèze le transforment en roman graphique.
C'est-à-dire qu'il y avait un double intérêt à traiter cette histoire en bande dessinée. Le premier intérêt, c'est évidemment l'histoire en elle-même. Et c'est cette dimension humaine et émotionnelle remarquable. Et puis, il y avait aussi le challenge purement technique, on va dire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut raconter une histoire comme ça en bande dessinée. La difficulté nous a pas échappé avec Olivier. On a beaucoup, beaucoup discuté, justement, très en amont. La difficulté, d'abord, c'est la multiplicité des personnages qui fait qu'on a l'obligation de construire un récit assez complexe à ce niveau-là, sans égal lecteur. C'est l'histoire d'un héroïsme collectif, qui n'a pas de héros unique auquel se raccrocher. Il faut réussir à montrer ce kaléidoscope d'héroïsme individuel additionné qui font l'héroïsme de toute cette histoire. Il y a aussi l'essence administrative du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebondissement forcément d'action quoi que ce soit, et on est sur des subtilités administratives, sur un thriller administratif qui évidemment nous obligeait à inventer quelque chose graphiquement. Alors la chance qu'on a eue, c'est que Valérie Porteret, l'historienne qui nous a soutenus dès le début du projet, nous a fourni toute sa documentation. On a pu, Olivier a pu intégrer des circulaires, des documents, des prospectus, toutes sortes d'éléments d'essence administrative dans cette âme, et créer justement par exemple cette scène un peu capitale au début de la BD où on voit le personnage de l'abbé Glasberg qui se promène dans un labyrinthe qui est lui-même constitué de documents administratifs. Donc on a eu ce parti pris là très vite d'essayer de graphiquement de traduire cette sensation d'étouffement.
Citoyens, résistants, abbés, rabbins, les auteurs mettent l'accent sur la chaîne de solidarité qui mènera à sauver 108 enfants. La qualité du travail graphique d'Olivier Balèze est à souligner. C'est globalement sombre et naturellement pesant, gris, bleu, ocre, le prisme de la couleur est plutôt sombre, mais c'est impacté le lecteur sur certaines séquences. Le travail sur les différents personnages est particulièrement réussi grâce à une forte documentation. L'émotion circule, c'est un très bel album. Cette adaptation graphique du roman met en lumière un événement historique douloureux, tout en soulignant une forme de soulèvement collectif. De quoi alimenter notre réflexion sur le rôle que chacun, à sa mesure, peut endosser. L'album s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants » et c'est signé Arnaud Le Gouéfec et Olivier Balèze.
Chérim.
Juste avant de parler de Kirk Douglas, c'est le moment Chérim, la musique en hébreu, enfin un peu en hébreu, un peu en français, avec Shirel.
השמש לי קורצת בחלום, והגברים שלי אותי משובבים, מושכים, מושכים.
אני לא רוצה לעבוד, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות, et puis je fume.
אני מכירה ריחות של אהבה, אלף שושנים אין ריח כל נפלא, אבל אם תביא לי עוד פרח אחד אני אצג.
אני לא רוצה לעבוד, נו, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות איפי יפה. אני לא גאה בזה שבי הכל חופשי, c'est magnifique, être sympathique, אצלי הכל טבעי. אני לא רוצה לעבוד, נו, אני לא רוצה לאכול, אני רק רוצה להיות טבעי יפים. בזה שבי הכל חופשי,
être sympathique, et si à col divine. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je
En 2020, George Douglas mourait à l'âge de 103 ans, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle et atypique à Hollywood. Sa singularité provenait du moment où elle avait émergé. À la fin des années 40, période de transition entre le jeu classique et l'apparition de la méthode, portée notamment par Marlon Brando et Montgomery Clift. Douglas occupait une position particulière, à mi-chemin entre ces deux traditions. Il incarnait simultanément le jeune premier, le séducteur trouble, et le rebelle outsider. Issu d'une famille juive émigrée de Biélorussie, il grandit dans une extrême pauvreté à Amsterdam, dans l'État de New York. Pour éviter l'antisémitisme ambiant et faciliter sa carrière, il adopta d'abord le pseudonyme Dizzy Debski, puis finalement Kirk Douglas, sur les conseils de l'actrice Lauren Bacall. Contrairement à de nombreux acteurs juifs de son époque, Douglas n'a jamais dissimulé son identité. Il incarna ainsi explicitement des rôles de personnages juifs, comme dans Le Jongleur en 1953 où il joue un rescapé de la Shoah, ou dans L'ombre d'un géant en 1966 où il interprète le colonel Mickey Marcus, figure clé de la création de l'armée israélienne. Même dans Spartacus en 1960, Douglas voyait dans son personnage une résonance avec les combats pour la liberté du jeune État d'Israël. Cette détermination face à l'antisémitisme hollywoodien fut l'un des moteurs de sa carrière, alimentant une colère profonde, visible dans ses rôles les plus emblématiques. Vincent Van Gogh dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, le producteur impitoyable dans Les Ensorcelés, ou le journaliste cynique du gouffre aux chimères. Douglas fut aussi un acteur engagé, comme le montre son rôle dans Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, dénonçant l'injustice militaire pendant la Première Guerre mondiale. Son courage dépassait l'écran. Il imposa notamment que Dalton Trumbo, scénariste blacklisté pour ses sympathies communistes, soit crédité officiellement sur Spartacus, contribuant ainsi à la fin de la liste noire à Hollywood. La vie et la carrière de Kirk Douglas illustrent l'histoire d'un homme ayant constamment lutté pour rester fidèle à lui-même, assumant pleinement son identité juive, à une époque où c'était loin d'être évident.
Wow. La recommandation du jour.
Derrière Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, la comédie dramatique de Ken Scott, il y a l'histoire vraie et poétique de Roland Pérez. Roland est un petit garçon de 8 ans, pas tout à fait comme les autres. Il a développé une tendre affection pour la chanteuse Sylvie Vartan, qu'il ne quittera jamais tout à fait.
Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland ?
Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît.
On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan.
Dans le Paris des années 60, pendant les années yéyé, la famille Pérez vit dans un HLM vivier de culture et de religion. Parmi les enfants des Pérez, il y a Roland, dont la naissance s'accompagne d'une annonce terrible des médecins. Le bébé est né avec un pied beau. De docteur en docteur, on annonce à la mère que son fils est handicapé, qu'il ne pourra marcher qu'appareillé. C'est sans compter la détermination de cette maman qui se battra jusqu'à trouver le traitement miracle pour lequel le petit Roland devra rester alité 18 mois. On lui installe un lit médicalisé avec un corset et des cordelettes pour redresser son pied. Pendant la période d'immobilité du petit garçon âgé de 8 ans, son réconfort aura un nom. Sylvie Vartan. Aujourd'hui, le petit Roland a grandi. Il est devenu Maître Pérez, avocat spécialisé dans le droit de l'image, de la presse et des artistes. Il raconte cette histoire dans un livre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, publié aux éditions Escapade et donc récemment adapté au cinéma par Ken Scott.
Ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est le fait qu'il y a de l'émotion dans cette histoire. C'est une histoire vraie, il y a de la comédie. Il y a beaucoup d'humanité. Il y a des personnages hauts en couleur, incroyables. Et donc, vraiment, c'est tout ce que j'aime au niveau d'une histoire. Le fait que ce soit cette mère qui se bat bec et ongles pour aider son fils à s'affranchir d'un handicap. Et que, en fait, ça, c'est seulement la première partie du film, parce que la deuxième partie du film, c'est espèce de miroir par rapport à la première partie, parce que dans la deuxième partie, c'est ce fils qui essaie de s'affranchir de sa mère qui est trop présente. Alors, il y avait beaucoup d'éléments qui me plaisaient beaucoup dans cette histoire vraie qui a été écrite tout d'abord dans un roman par Roland Pérez, par le protagoniste, et que j'ai adapté par la suite pour le cinéma.
Leïla Bekhti interprète Esther, la mère du petit Roland, et une mère juive déterminée. Et celui qui crève l'écran également, c'est Jonathan Cohen, dans un rôle tout en subtilité et émotion.
Bah, ce qui m'a vraiment touché dans le personnage et dans le script, c'est que c'est moi, comme c'est mon personnage intervient dans la deuxième partie du film, là, on va dire la partie un peu adulte, quand l'enfant a réglé... on va dire le problème de l'handicap de l'enfant est réglé. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est toute l'émancipation, toutes les tentatives d'émancipation de mon personnage et de sa mère. Comment il arrive à essayer de s'en sortir, comment il lutte, comment c'est une vraie lutte pour pouvoir pour continuer de grandir, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir avoir sa femme, ses enfants, et comment il arrive un peu à mettre sa mère à distance. Et c'est un parcours que je comprends très bien, parce que j'ai un peu une mère comme le personnage, donc je comprends très bien ce qu'il a dû traverser.
Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout...
Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher ?
Pars à l'hôpital !
Il a donc dû inventer les mères.
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, actuellement sur les écrans, un film à voir absolument.
El mañana me da miedo. El hoy y el ayer. Me doy miedo yo misma. Y miedo de ti también. Tengo miedo de estar sola. De estar sola contigo.
De estar sola contigo.
Miedo de estar con tanta gente. Y de aún sentirme tan, tan sola.
De aún sentirme tan, tan sola.
La amplitud y la altura. La superficie me da miedo. Y demasiada profundidad. Decisiones me dan miedo. Y más miedo de no haberlas tomado. El cambio me da tanto miedo. Y mucho más de no cambiar jamás.
أنا بخاف من الحاجات الصغيرة. زي التراب في عيوني بتعب النظر أو لما أكون قاعدة مع ناس كتار وحاسة إني براي بخاف أبكي براي الحيطان تتشقق من الألم خايفة أمسك يدك وإنت تفك يدي بس حاجات صغيرة حاجات صغيرة مرات بتلبك في جسمي لكن هحاول هحاول عشان عاوزة أشوف الحياة بعيونك بعيونك حبيبي بعيونك
Thank you. Bonsoir, chérie.
Alors, votre nouveau travail vous plaît?
Oui, j'ai beaucoup à faire. Je suis très occupée. Vous avez fini votre journée? Vous allez dormir?
J'en ai l'intention.
Un peu de café?
Non, merci.
Vous voulez manger?
Non plus.
Vous prendrez bien un verre.
Je veux bien un verre.
Carlos dit que c'est la bouteille pour les hôtes de marque. Vous avez besoin de dormir. Changeons de chambre, vous serez à l'abri des tueurs.
Tout ce que je veux, c'est ce verre.
Alors, c'est tout ce que je peux faire pour vous?
C'est tout, vous me l'avez déjà demandé.
Vous avez raison. Excusez-moi.
Mettez ça sur la note.
Prenez ma chambre, les hommes de Burdett ne vous y chercheront pas. Je vous souhaite une bonne nuit.
Vous n'aurez rien fait pour ça.
Vous l'avez compris, avec ce générique, Fidèle au poste se termine. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci de tous vos petits mots qui font toujours plaisir. Au programme de demain, une bande dessinée, La Muette, un film fondamental, Exodus d'Otto Preminger, et puis nous verrons qu'on peut rire de tout, sauf de sa mère. Bon après-midi à tous, et à demain !